Bonjour à chacun. Prenez place. Le culte va commencer.
Le dimanche, les femmes se rendirent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Luc 24.
Le Seigneur est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Encore une fois, le Seigneur est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Pourtant, quand on voit le monde décrit par les images que vous avez vues défiler, la guerre qui sévit dans beaucoup de pays, qui ne s'arrête jamais, notre planète qui souffre de la pollution, notre tête qui éclate parfois quand on ne sait plus à quel sein se vouer, qu'on ne trouve pas de solution, que notre cœur est lourd, nos luttes personnelles. Et puis, cette impression des fois qu'il y a un pouvoir qui est sur nous et contre lequel on ne peut rien. Alors, la résurrection, ça change quoi? Jésus ressuscité, ressuscité, c'est la mort vaincue. C'est la démonstration que tout ce qui est porteur de mort dans nos vies, tout ce qui nous rend malheureux aura une fin. C'est une formidable brèche dans l'inéluctable d'où surgit du neuf. C'est la promesse qu'avec Dieu, le mot fin n'est jamais inscrit. Alors je crois qu'aujourd'hui, quelles que soient nos circonstances, quel que soit l'état de notre cœur, nous pouvons nous réjouir et chanter. Personne n'a été témoin de la résurrection de Jésus. Personne n'a vu Jésus sortir du tombeau. Les femmes qui sont arrivées au tombeau pour embaumer le corps de Jésus ont trouvé un tombeau vide. Avec les bandelettes ou les draps qui étaient là, plus de corps. Et un personnage leur a annoncé que Jésus était ressuscité. Ça n'a pas été simple pour les premiers, pour les, ceux qui suivaient la mort de Jésus. Les femmes ont eu peur, les disciples ont douté. Ce n'est peut-être pas si simple à comprendre parce que Jésus ressuscité, ce n'était pas comme la résurrection de la fille de Jaïrus ou du fils de la veuve de Nain. C'était quelque chose de vraiment spécial. Pour nous, chrétiens du 21e siècle, après plus de 2000 ans de réflexion, de témoignages. C'est quelque chose qui nous semble évident, ça fait partie du credo. Ça fait partie de notre identité de chrétien. Heureusement que les disciples ne sont pas restés à leurs doutes et les femmes à leurs peurs et qu'ils ont témoigné et qu'il y a eu des tas de témoins au fil des siècles. Et ce matin encore, il y a des témoins. J'ai demandé à quelques personnes, et trois ont été d'accord de relever le défi, de nous dire ce que ça signifiait pour elles que Jésus soit ressuscité. Alors, je laisse la place à Heidi Anchaud.
L'hiver, cette année, a duré une éternité, non? Pendant tout ce temps de froid, de vent, de brouillard, de gris, de rudesse ou d'ennui, j'ai regardé devant, au printemps, qui devrait normalement arriver aux alentours de Pâques, normalement. J'ai regardé à la vie. Dans le monde de Narnia, selon C.S. Lewis, ils vivent le malheur que ce soit toujours l'hiver et jamais Noël. Alors j'adapte un petit peu. Imaginez, toujours l'hiver et jamais Pâques. Jamais l'irruption soudaine et définitive de la vie. Toujours l'épreuve, la souffrance, la guerre, les difficultés. Ou toujours la monotonie, l'ennui, la déprime, sans sortie de tunnel. Autant Noël est un scintillement au sein de la nuit, autant Pâques est le lever du jour, l'explosion de la vie, la fin de la mort. Pâques, c'est un événement historique que l'on fête aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est aussi un rappel annuel de la victoire de la vie sur la mort. Malgré le fait que des hivers reviennent périodiquement dans nos vies, il y aura toujours une Pâque à l'horizon, même lointain, auquel on peut s'accrocher. Pâques, c'est aussi l'annonce d'un événement futur, la vie définitive, la résurrection, le rétablissement de toutes choses. Pâques, c'est le seul espoir de ce monde. C'est un espoir passé, un espoir présent et futur. C'est un espoir unique et perpétuel. C'est l'espoir des individus ici, de vous et de moi. C'est l'espoir des nations.
Nous chantons Jésus, espoir des nations.
Thank you.
juste, vous pouvez vous rasseoir, les musiciens, vous restez. Maintenant, Sylviane Bailly.
Peut-être que vous, vous aimeriez aussi dire quelque chose. Alors je vous propose un moment de prière où chacun peut courtement dire ce que cela signifie pour lui. Nous prions. Seigneur, que la joie
et la paix de Pâques nous accompagnent longtemps. Amen. André Fagioni.
J'ai essayé d'imaginer dans quelle situation pouvaient se trouver les disciples après la mort de Jésus. En fait, il faut pas oublier que les disciples ont du jour au lendemain tout quitté pour le suivre. Ils ont entendu ses paroles, ils ont entendu et suivi son enseignement, et ils ont vu ses miracles. Ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau, de l'eau changée en vin, des morts ressuscités. Et on peut très bien imaginer que pour les disciples, la mort de Jésus était inconcevable, inimaginable. Et en quelques heures, tout a basculé. À la suite d'un procès expéditif, leur maître a disparu, il était mort. Et ils ont dû se trouver dans la situation la plus noire qui puisse être, dans le désespoir le plus complet. D'ailleurs, ils se cachaient. Ils avaient peur. Et tout d'un coup, au milieu de cette noirceur, il y a une lumière qui se rallume et la nouvelle de la résurrection qui arrive. Et finalement, je me suis dit que la résurrection, Pâques, c'est peut-être la bonne nouvelle qu'on n'attendait plus au moment où on s'y attend le moins.
Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. À Pâques, on ne peut pas faire l'économie de la croix. Parce que si Jésus n'était pas mort, il n'aurait pas pu ressusciter. Aussi, parce que
à la croix, dont Jésus, condamné, est cloué sur la croix, c'est le mal même qui règne dans notre monde qui est condamné, qui est cloué. Dieu est le mal. Il est en colère à cause de la souffrance que cela occasionne. Avec la croix, Dieu a condamné le mal. Mais la résurrection, c'est le mal qui est vaincu. C'est Dieu qui dit le dernier mot, c'est moi qui l'ai. Il m'appartient. La vie, ma vie, est plus forte que tout ce qui est porteur de mort et de malheur. Et cette vie est pour toi. Vendredi soir, nous avons eu un office à la croix. Nous avons relu Luc 22 et 23. Et en écoutant ces textes, je me suis rendu compte que Jésus n'était pas mort pour sauver le monde en général ou pour sauver des foules, des groupes de personnes, mais qu'il était venu pour sauver des personnes, que le salut s'adressait à des individus, à toi, à moi, à eux, mais à des individus. Tout ce que j'ai énuméré au début du culte me pèse parfois. Le malheur, on n'en a pas envie. Mais j'ai réalisé que ma vie n'est pas dans la résolution de ces malheurs. Comment feraient les gens qui, jour après jour, sont dans le malheur, vivent des situations extrêmement difficiles? Il n'y a qu'une solution, c'est s'accrocher à Dieu, au Christ. C'est comme ça que la vie circule. C'est comme ça qu'on peut trouver le désir d'avancer quand même. Ou plus modestement peut-être parfois, parce que c'est parfois juste un fil ténu, le désir de ne pas abandonner. C'est la rencontre avec le Christ, confirmant qu'il était ressuscité, qui a remis les disciples en route.
Nous lisons Luc 24, les versets 28 à 34. Deux disciples quittent Jérusalem désemparés. Ils n'ont pas compris ce qui était arrivé à Jésus, sa mort et le bruit d'une résurrection. Un inconnu fait route avec eux et leur explique. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'instant même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. »
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous rappelle qu'il s'est donné, c'est là que nous pouvons le rencontrer. La coupe de vin pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle nous rappelle que nous sommes pardonnés. C'est là que nous pouvons rencontrer le fruit. C'est dans le pain rompu, dans le vin qui coule, que Jésus se donne à être rencontré. Quand nous prenons la Sainte Cène, nous disons « Je crois, merci, je veux vivre avec toi. » Et comme les disciples sont repartis à Jérusalem, avec la vie en eux, nous aussi, nous vivons des moments de rencontre avec le Christ, qui c'est notre résurrection même. En attendant la résurrection d'après, mais il y a des résurrections.
question pour aujourd'hui.
Nous prions. Notre Seigneur, tu avais déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Et par ton œuvre, tu l'as démontré. Aussi, nous voulons te dire notre reconnaissance et à la suite de ton invitation, partager ce pain, partager ce vin, nous souvenir de ton œuvre et nous réjouir de la perspective de pouvoir prendre un jour ce repas avec toi. Que ton nom soit béni. Amen.
Comme Jésus qui est venu jusqu'à nous sur la terre, comme Jésus qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, comme Jésus qui n'a pas attendu que ses disciples croient, mais qui est allé à leur rencontre, ce matin, nous allons avec, à votre rencontre avec le pain et le vin. Au milieu, dans les gobelets violets, il y a du jus de raisin. Et si vous préférez boire à la coupe, faites signe, Philippe passera vers vous.
les chrétiens ne sont pas seulement ici à Mérin, mais dans le monde entier. Et tous ensemble, nous connaissons cette prière, le Notre Père. Alors, je vous invite à vous lever, parce que Christ est ressuscité, s'est relevé de la mort, et à dire ensemble Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez prendre place.
Il faisait froid ce matin-là. Il faisait froid. Oh, vous autres, vous pensez que je viens d'un pays chaud. Mais les nuits sont froides par chez nous, même au printemps. Si on doit rester dehors, comme les soldats qui montent la garde devant un palais, eh bien, on allume un grand feu, un feu, pour se tenir au chaud. C'est que le froid, ça vous réveille. Mais ce matin-là, cela faisait 3 nuits. Que je ne dormais plus. Vous savez, une image me revenait sans cesse en boucle. Des gens autour d'un brasero, des gens qui me regardaient, qui me questionnaient, qui me menaçaient. Une image donc, mais le son aussi. Je ne parle pas de ces voix insistantes avec leurs accents judéens. Je vous parle du chant d'un coq. Vendredi au petit matin, le chant d'un coq. Samedi, le chant d'un coq. Dimanche, le chant d'un coq. Toute ma vie, le chant de ce coq allait me poursuivre. Toute ma vie, j'allais avoir des cauchemars avec des gens qui me poursuivraient, avec ce coq qui me poursuivrait. Pourquoi ? Je ne peux pas vous le dire. C'est trop pénible. J'ai trop honte. Je l'ai dit à Jean. C'est un vrai frère, celui-là. Je l'ai dit à Marc pour qu'il l'écrive. Mais là, devant vous, je ne peux pas vous le dire. C'est trop dur. Comprenez que je ne viens pas vous parler du jeudi soir ou du vendredi, mais du dimanche. Il faisait froid ce matin-là. Je n'avais pas dormi, je tournais en rond. Jean était debout, lui. Marie aussi était debout, elle. Et voilà qu'on entend frapper à la porte, cogner à la porte, tambouriner à la porte. Je me dis, c'est la police. Cette fois, on nous cherche, nous aussi. Mais non, c'était une voix de femme. C'est Marie de Magdala, essoufflée, hors d'elle. Elle dit, on a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Assieds-toi. Elle ne veut pas s'asseoir. Calme-toi. Elle ne veut pas se calmer. On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Ça ne tenait pas debout. Il y avait des soldats en armes. Assieds-toi. Calme-toi, explique-nous. Il n'y a rien à faire. Bon, on sait bien que cette sœur est ultra sensible. Il faut dire qu'avec la vie qu'elle a vécue, mais là, c'est trop fort. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il faut y aller, il faut aller voir, et vite, parce que si c'est vrai, c'est trop grave. Le temps de mettre une ceinture autour des reins, de prendre un bâton, on part. On ne s'occupe pas de Marie, elle nous suivra si elle peut. Jean, lui, il est plus jeune que moi, il court plus vite que moi. Je le perds de vue dans les ruelles de la vieille ville. Mais quand j'arrive dans le jardin, je le retrouve, Jean, seul devant la tombe, qui essaye de regarder à l'intérieur. Aucun soldat, juste les saletés qu'ils ont laissées derrière eux, et un trou. La tombe est ouverte. Ah non, non, pas le genre de trou que vous faites chez vous, hein. C'est une grotte, aménagée dans la roche, agrandie, embellie même. Il y a une rainure creusée devant la grotte pour faire rouler une grosse pierre plate. C'est elle qui ferme la tombe. Mais là, elle ne ferme plus rien. Elle a été poussée sur le côté. Il faut que je vous dise que Jean a été élevé religieusement. Alors pour lui, ça ne se pouvait pas d'aller dans la maison d'un mort. Alors entrer dans une tombe, il ne voulait pas se rendre impur. Des fois, je trouve qu'il exagère, Jean. Avec Marie de Magdala qui nous dit que le Seigneur a été enlevé, avec les soldats qui ont décampé, avec la grotte toute ouverte, faut plus hésiter. Oh Jean, tu veux pas y aller? Eh bien, moi j'y vais. Il fait froid et humide là-dedans. On ne voit pas bien. Surtout quand on a un frangin qui se tient dans l'entrée de la tombe et qu'il bloque la lumière. Hein. Mais je vois encore assez clair pour constater qu'il n'y a rien à voir. Pas de corps, je veux dire. Ça y est, Jean, tu peux entrer, il n'y a pas de corps. Et Jean entre. Et du coup, il dégage l'entrée et la lumière aussi. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, à droite et à gauche, il y a comme des niches qui sont creusées dans la roche pour accueillir les corps. C'est bien une tombe familiale pour plusieurs personnes, une tombe de riches. Dans la niche de droite, il n'y a rien. À gauche, il y a un drap, mais pas de corps dedans. Et on voit à part comme les linges qui ont dû être roulés autour de la tête. Vous savez, quand on transporte un corps chez nous, on le fait dans un drap. Là, il y avait un drap, mais pas de corps. Après coup, Jean me dira qu'il a tout compris à ce moment-là. Mais moi, je comprends rien. Je ressors, je retourne à la maison, plus mal dans ma peau que jamais, mettez-vous à ma place. J'aimais Jésus. Il m'avait appris tellement de choses. Je l'ai vu guérir des malades, je l'ai vu chasser des démons, je l'ai vu tenir tête aux scribes et aux pharisiens. J'ai quitté mon job pour le suivre. J'ai fait partie de son cercle intime. J'ai cru qu'il était le Messie. Puis je l'ai renié. Ça y est, c'est sorti, je vous l'ai dit. Je l'ai renié. De toute façon, chant du coq ou pas, il n'était pas le Messie. Parce que Dieu ne l'a pas sauvé de la mort. Parce que les femmes l'ont vu mourir. Parce que Jean aussi l'avait vu mourir. Bon, moi j'avais décampé. Mais ils l'ont vu mourir. Et on l'a enterré. Je m'étais donc trompé. J'avais suivi un imposteur. Mais non, ce n'était pas un imposteur. Avec des paroles si vraies, avec des actes tellement puissants. Mais si tu as été berné, il est mort comme un chien. Toute la journée du sabbat, j'avais ressassé cela. Toutes les nuits, sans rien comprendre. D'accord, moi je n'ai pas été loyal jusqu'au bout. Mais lui, qui c'était ? Je vous le dis maintenant, il est le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il est le Prince de la vie. Il est le Sauveur. Comment je le sais ? Parce qu'il est revenu vers nous, vivant. À tout le groupe, le dimanche soir, ouais, avec les femmes. Il manquait bien Thomas, cette fois-là, mais Thomas l'a vu aussi un peu plus tard, avec nous tous. Jésus, le vrai, en chair et en os. Pas un fantôme, pas un esprit, pas une vision mystique, pas une hallucination, le vrai Jésus. Changé, comment vous dire, comme rayonnant, comme débarrassé de toute fatigue, de toute faiblesse. Oui, c'est cela, il était fort et glorieux, mais avec des trous dans les mains, des trous dans les pieds. Un trou dans le côté. Il était transformé, mais les signes de sa mort, il les a gardés comme un trophée de victoire. Ce que je vais vous dire maintenant, cela ne concerne pas les autres témoins, ni les femmes, ni les 12. Nous n'étions plus que 11 d'ailleurs. Mais c'est mon histoire à moi. Ce dimanche-là, quelques jours plus tard, il est venu me rencontrer sol à sol. Moi. Avant le fameux soir où nous étions tous ensemble, il est venu me voir, moi, ses faces. Je me suis effondré. J'ai pleuré. Je n'osais même pas le regarder. Mon Seigneur, mon Maître, mon ami, il était vivant malgré tout, vivant. Je peux vous dire que si la mort vous fait pleurer, la résurrection, ça vous fait pleurer encore plus. Il n'y avait pas que ça. Moi, j'étais le dernier des derniers, le plus minable de tous. Toujours le premier à parler, toujours sûr de moi, toujours plus fort que les autres. Je l'avais même dit, je suis un roc. Imaginez, le portier du royaume de Dieu, l'un des 12, l'un des 3, le premier des 12, fier comme un coq, mais un lâche. Cette nuit même, avant que le coq ne chante deux fois, tu diras trois fois, tu ne me connais pas. » Jésus l'a prédit. Et c'est vers moi qu'il est venu. C'est à moi qu'il a tendu la main, loin des regards, délicatement, comme il le faisait toujours quand il guérissait des gens, fortement, comme il le disait toujours lorsqu'il guérissait des gens. Assez fortement pour vaincre ma honte, pour m'ouvrir les yeux sur un nouvel avenir. Si toi tu as honte, il peut te relever. Si toi tu as péché, il peut te pardonner. Si toi tu t'es trompé, planté, il peut t'éclairer. Si toi tu as été blessé, meurtri, abîmé, il peut te guérir. Il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu, le Prince de la vie, le Libérateur, le Sauveur, le Seigneur. C'est un roc. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Seigneur est réellement ressuscité et qu'il est apparu à moi, Simon-Pierre. Ce matin-là, il faisait encore frais. Je ne dormais plus depuis 3 jours. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai dormi comme un petit enfant. Joyeuse Pâques.
Dieu est bon, très bon. Nous voulons le chanter et recueillir votre offrande. Thank you. pouvez vous rasseoir. Nous prions. Seigneur, par cette offrande, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as donné. Nous te prions pour les peuples du monde entier, pour les individus du monde entier, afin qu'eux aussi, aujourd'hui, puissent connaître un peu de la joie de Pâques, de l'espérance. Seigneur, bénis-nous tous. Amen. Les annonces.
Elles volent en éclats les portes verrouillées qui nous enferment dans les tombes de nos échecs et de nos fautes. Elles volent en éclats. Elles s'ouvrent avec fracas la porte de la mort qui nous ferme tous les ciels, ceux du bonheur d'être aimé et d'aimer, qui nous bouche l'horizon de la paix et de la justice. Elle est ouverte, la porte de la vie, et plus jamais elle ne se refermera, car il est vivant, celui que nos peurs et nos aveuglements avaient rejeté et enfermé dans la mort. Il est vivant et il détient pour tous les humains les clés de la vie. C'est Pâques, le Christ vivant pour toujours, inaugure pour nous tous, pour nous toutes, pour toute l'humanité, un monde sans claquement de porte, le monde de la liberté, de l'accueil, de l'avenir et de la vie. Que le ressuscité vous comble de sa grâce et vous accorde de rester aussi près de lui que lui est près de vous. Joyeuse Pâques, allez en paix.